Mathieu, bonjour à tous.
En direct de votre salon, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement.
Oui, parce qu'on est aussi, comme beaucoup de Français, en télétravail. Enfin, on ne t'en fait pas de télé, en radio-travail, François Geffrier. On est ensemble pour l'info. Bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1. Vous écoutez Le Monde Changé. Il est 8h.
Sur Paris, ça monte en flèche, c'est exceptionnel. Hier, une de mes associées a fait 9 tests. Les 9 étaient positifs et c'était tous des professionnels de santé.
Multiplier les tests du Covid-19, des dépistages en restant dans sa voiture, comme au drive d'un centre commercial. La France tente d'accélérer ses procédures car pour l'instant, comme l'a vécu un de nos journalistes, ça n'est pas vraiment aussi rapide qu'au fast-food. La vague de l'épidémie est en train de monter. Les hôpitaux saturés dans l'Est, bientôt ailleurs, devront trier les malades.
On va être obligé de faire un choix puisque on n'a clairement pas assez de places disponibles pour tous les patients.
Et les médecins seront soutenus et accompagnés d'un point de vue éthique. Le ramadan aussi est contraint par le confinement et chez les chrétiens, après les 40 jours du carême, la quarantaine continuera. Les rameaux et Pâques sans rassemblement nous appelleront l'évêque de Nanterre. Eux voient une lumière au bout du tunnel. Les Italiens enregistrent 2 jours consécutifs de baisse du nombre de morts. Nous serons à Rome. Et puis, l'appel d'un patron et d'un syndicaliste pour sauver leur usine près de Lyon en redressement judiciaire alors qu'elle fabrique de la chloroquine.
Un appel au pouvoir public, je pense que l'État pourrait porter en fait l'acquéreur ou alors faire en sorte qu'effectivement un projet de reprise puisse être enregistré.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Axel Kahn, médecin, essayiste, président de la Ligue contre le cancer. Vous dialoguez ensuite avec lui à partir de 8h30, vos questions au 39-21 et sur le hashtag Radio Ouverte. Parmi vos rendez-vous, vous le savez, 8h45, la revue de presse de Nicolas Canteloup. 8h02 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les soignants durement touchés par le Covid-19, 5 d'entre eux y ont laissé la vie. La vague de l'épidémie monte et la France, qui ne fait que 5000 tests de dépistage par jour, tente de développer des procédures plus rapides.
Comme aux États-Unis, des centres de dépistage du coronavirus en drive s'installent, comme dans l'Essonne. Hein. Alice, le groupe Serballiance, y teste avant tout les soignants, Mathieu Bock.
Afin de prendre le moins de risques possible, les biologistes demandent aux patients de rester dans leur voiture sur le parking. Masque sur le nez, gants, lunettes, combinaison intégrale, ils se protègent du mieux qu'ils le peuvent, car de plus en plus de professionnels de santé qui viennent les voir sont eux-mêmes contaminés, explique le docteur Laurent Cabeillère, biologiste chez Biogroup, qui compte 600 laboratoires partout en France.
On a fait 1600 tests, on a commencé jeudi à les faire. On en a 29% de positifs, tout en sachant que c'est très variable. C'est-à-dire qu'en Alsace, ils sont positifs à 42%. Dans le sud, on est à 8% de positivité, c'est-à-dire que la vague, elle n'est pas encore arrivée dans le sud. Ça va pas tarder. Sur Paris, ça monte en flèche, c'est exceptionnel. Hier, une de mes associées a fait 9 tests. Les 9 étaient positifs, et c'était tous des professionnels de santé. On favorise les tests, d'abord, pour les professionnels de santé symptomatiques. Pas parce qu'on se garde les tests entre nous, c'est pour le retirer de la circulation, pour pas qu'ils contaminent tous ces patients.
Et devant l'ampleur du phénomène, le docteur Cabeillère craint que son stock de tests ne tienne pas 2 jours et il rappelle que ces tests se font sur ordonnance avec une prise de rendez-vous et qu'il ne faut surtout pas se présenter spontanément devant un laboratoire pour demander à se faire dépister.
Alors l'un de nos journalistes a dû subir un test la semaine dernière. C'est vous, Adrien Beck du service politique d'Europe 1. C'était dans la région grenobloise. Dites-nous comment ça fonctionne.
Oui, alors tout se passe en fait sous une petite tente blanche dressée sur le parking du laboratoire. Vous arrivez, vous vous garez sous cette tente, interdiction de sortir de votre voiture. Là, 3 soignantes masquées, gantées, vous vous contentez de baisser la vitre et on vous effectue un prélèvement dans chaque narine. Alors, c'est pas très agréable, mais ça prend franchement une trentaine de secondes et ensuite, vous repartez. En fait, tout est fait en amont, la prescription de votre médecin. Dans mon cas, c'est parce que j'avais des symptômes et qu'un de mes proches est une personne fragile. Ensuite, le laboratoire vous rappelle, toutes les formalités se font par téléphone, c'est très simple, très rapide, à l'exception du résultat, car le laboratoire croule sous les tests, 25 chaque jour, me disait-on. Ça fait maintenant 5 jours que j'ai été testé et je ne sais toujours pas si j'ai ou non le coronavirus, puisque j'aurai le résultat de mon test ce soir.
Merci Adrien Beck et bon courage pour l'attente de ce résultat, bien sûr. À Mulhouse, l'hôpital de campagne de l'armée va voir arriver ses premiers patients. Aujourd'hui, 30 lits de réanimation réservés aux patients qui sont dans un état grave, mais en amélioration.
Et même si cela soulage un peu les hôpitaux du Grand Est, saturés, cela n'évitera pas forcément l'étape suivante pour les médecins, à savoir faire un tri entre les malades trop nombreux. Des cellules de soutien sont mises en place. Romain Noquet a contacté pour Europe 1 des médecins en Normandie qui se posent déjà beaucoup de questions.
On va être obligé de faire un choix, puisqu'on n'a clairement pas assez de places disponibles pour tous les patients. Est-ce que ça vaut le coup Oui, non.
Pour répondre, Arnaud de Pile-Duval, urgentiste à Paris, peut compter sur la cellule éthique de l'Île-de-France. Dans chaque région, des équipes de réanimateurs, infectiologues, psychologues, pour aider les médecins à prioriser leurs patients.
La crainte, c'est clairement de se retrouver avec deux patients qui sont tous les deux assez jeunes et insérés dans la société. Il est très facile de se dire qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix. Et là, c'est le risque de la survenue d'un stress post-traumatique pour les praticiens.
Avec l'épidémie, les critères d'admission en réanimation vont d'ailleurs se durcir, explique Grégoire Moutel. Le coordinateur de la cellule de Normandie est aussi sollicité par des médecins de ville en première ligne face aux familles.
On a un collègue qui nous dit « Moi, la décision, je la comprends, mais ma grande difficulté, c'est comment la faire accepter aux proches que je connais depuis 10 ans et qui pensaient que j'allais pouvoir faire adresser leur papa à l'hôpital. » Nous, on va être dans l'idée de ne pas laisser le professionnel seul se sentir soutenu.
Un comité aussi composé de juristes pour préciser le cadre légal, car les médecins le savent, ces choix il faudra les assumer, y compris après la crise.
Le confinement annoncé au départ pour 15 jours, eh bien, il peut durer encore quelques semaines, prévient Édouard Philippe.
Le Premier ministre qui a précisé hier soir sur TF1 que l'exercice physique était désormais au maximum à 1 km de chez vous, 1 heure par jour, 1 fois par jour. Et tout seul. Notez également que les marchés alimentaires, les marchés sont maintenant interdits, sauf dérogation préfectorale dans de petites communes sans commerce alimentaire.
Quant au président de la République, il a échangé hier avec les représentants des cultes, leur annonçant que les célébrations du mois d'avril devraient se faire sans rassemblement. Cela concerne notamment le Ramadan, Michaël Darmon, qui retient toute l'attention des autorités.
Oui, il devrait débuter cette année entre le 23 et le 25 avril, c'est-à-dire dans un mois, à un moment où la France pourrait être encore en plein confinement. Dans ces conditions, impossible pour les fidèles de se réunir le soir, en famille et entre amis, pour la rupture du jeûne, comme le veut la tradition. Une privation qui inquiète l'exécutif, parce qu'il serait alors très difficile d'obliger chacun à rester enfermé chez soi. Ces consignes, comme l'a dit hier Emmanuel Macron aux différents responsables religieux, seront les mêmes pour tout le monde, pour les juifs et les catholiques. Pas de repas pascal en famille et pas de rassemblement non plus autour de Notre-Dame le 15 avril, date de l'incendie de la cathédrale de Paris. C'était déjà il y a un an. Notre-Dame, dont le chantier est actuellement en sommeil, selon l'expression officielle. Mais pour le général Georges Lain, qui dirige les opérations de reconstruction, les travaux pourraient reprendre très prochainement avant la fin du confinement, sans conséquence sur le calendrier fixé par le président de la République. Comme l'a dit hier le général Georges Lain, il y aura bien un retard. Le 15 avril 2024, à Notre-Dame, la messe n'aura pas lieu à 11h, mais à 11h30.
Merci Michaël Darmon, c'était le fait politique du jour sur Europe 1.
Et nous sommes en ligne avec Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Bonjour Monseigneur Mathieu Rouget.
Bonjour.
Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. On va parler de spiritualité un instant, mais d'abord, ce tout petit point technique, je propose à nos auditeurs d'écouter cet extrait d'une messe, c'est à Libourne.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous nous retrouvons ce soir pour prier ensemble. Je prendrai ce soir les prières de la messe votive proposée par le diocèse pour les temps d'épidémie.
Et c'est une messe en direct sur le net, des chaînes YouTube, des réseaux sociaux, etc. Au-delà de la performance, c'est que ce long confinement, Mathieu Rouget, c'est l'idée quoi ? D'une continuité de service public ou est-ce qu'il y a un besoin particulier de spirituel en ce moment ?
Je pense que depuis le début de la crise, nous avons voulu manifester que l'Église restait bien vivante, qu'elle accompagnait tous nos concitoyens dans l'épreuve qu'ils vivent. Et puis aussi, ce temps, nous le disons tous les uns les autres, c'est un temps où il faut nous interroger finalement sur notre vie en société, sur notre vie personnelle. Et les chrétiens ont toute leur place à jouer dans cette réflexion collective. Alors il y a beaucoup d'initiatives en effet, des paroisses, des mouvements, des aumôneries, des messes sur YouTube, pour la messe du dimanche, même parfois en semaine. Et l'idée, c'est aussi de profiter de ce temps de retraite collective pour que tous ceux qui le souhaitent puissent, par de la formation, par de la prière, par aussi un sentiment de solidarité, par tout ce qui se passe sur WhatsApp, sur les réseaux, pour rester en communion les uns avec les autres, notamment les plus fragiles, eh bien, on se sente vraiment vivant de la foi et de l'amour.
On va peut-être remplacer le mot confinement par retraite collective après votre intervention. Mathieu Rouget, l'Église qui surgit dans le 2.0, et pour vous, si j'ose dire, on est en pleine saison haute, les rameaux, la Semaine Sainte, les célébrations de Pâques qui arrivent, c'est le 12 avril. Vous avez aussi les préparations au baptême, au mariage, le catéchisme toujours. Tout ça, vous arrivez dans l'Église à l'assurer en télétravail ?
Alors, plus ou moins, mais on essaye. Donc, effectivement, les enfants suivent l'école avec l'enseignement à distance. J'ai demandé dans le diocèse, comme dans tous les diocèses, que le service de la catéchèse propose des éléments de catéchisme également à distance. Et ça se fait avec beaucoup de créativité. Demain, c'est la grande fête de l'Annonciation. Avec tous les évêques de France, nous demandons que toutes les cloches sonnent à 19h30 pour partager la joie de cette fête. Alors, par exemple, ce qui nous blesse beaucoup, c'est que nous avons des centaines et des centaines d'adultes qui se préparaient à recevoir le baptême dans la nuit de Pâques. Il y en a 200 dans mon diocèse de Nanterre et des Hauts-de-Seine. Et les baptêmes ne vont pas pouvoir avoir lieu dans la nuit de Pâques. Et donc, nous attendons de voir comment va se terminer le confinement pour choisir une date commune. Est-ce que ce sera à la Pentecôte, est-ce que ce sera à la Trinité, ou juste après,
pour s'adapter,
pour pouvoir
bien sûr
célébrer tous ces baptêmes.
Et s'adapter, bien sûr, comme beaucoup de Français. Merci, Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Je retiens la retraite collective plutôt que le confinement. Notre invité en direct dans le journal de 8h d'Europe 1.
Depuis plusieurs jours, vous avez suivi sur Europe 1 les promesses évoquées par le professeur Didier Raoult concernant la chloroquine, possible remède contre le coronavirus. Mais l'une des usines qui fabrique pour le marché français la Nivakine, anti-paludéen à base de chloroquine, est en redressement judiciaire. Basée à Saint-Genis-Laval, elle attend un repreneur depuis 9 mois, Jean-Luc Bougeon.
Le dernier lot de Nivakine antipaludéen à base de chloroquine a été fabriqué la semaine dernière à l'usine Famar. 200 000 boîtes de 20 comprimés envoyées hier au labo Sanofi qui commercialise le médicament. Mais ces boîtes seront peut-être les dernières à sortir des chaînes de fabrication car depuis un an, l'usine lyonnaise qui connaît des difficultés financières a été placée en redressement judiciaire. Son propriétaire, un groupe américain, veut la vendre mais aucun repreneur ne s'est manifesté. Du coup, c'est toute une production particulièrement utile en ce moment qui pourrait disparaître. Un gâchis, selon Lorenzo Sirac Zaro, le directeur du site.
Nous sommes prêts, nous, à répondre à une demande de production de médicaments à base de chloroquine. Le savoir-faire est présent, nos lignes de production tournent. Nous avons un personnel qui a démontré une attitude extraordinaire pour pouvoir assurer une livraison des médicaments auprès de nos patients.
Le délégué CGT, Yannick Donius, lance même un appel.
Un appel au pouvoir public. Je pense que l'État pourrait porter en fait l'acquéreur dans le cadre de la santé sanitaire de tout le monde ou alors faire en sorte qu'effectivement un projet de reprise puisse être enregistrée.
L'usine Famar, c'est donc un médicament qui peut être très utile en ce moment. Accessoirement, c'est aussi 250 salariés et un savoir-faire basé en France. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Depuis un mois, c'est en quelque sorte notre éclaireur. L'Italie a 8 à 10 jours d'avance sur la France en termes de progression de l'épidémie.
Bonjour Blandine Hugonnet, vous êtes notre correspondante à Rome, chez vous. Blandine, on s'accroche à un espoir car cela fait 2 jours consécutifs que le bilan quotidien des morts est en baisse.
Oui, c'est presque le soulagement ici. Après une semaine de bilan dramatique, record depuis ce week-end, il y a moins de morts et de cas confirmés supplémentaires chaque soir. 200 nouveaux décès et 2000 nouveaux contaminés de moins en 2 jours. Les chiffres sont réconfortants, reconnaissent les autorités sanitaires, surtout en Lombardie, la région la plus touchée. Après 2 grosses semaines de confinement, à Milan, le nombre de personnes testées positives a été divisé par 2. Mais attention, prudence, les victimes restent très nombreuses. Hier soir, l'Italie a passé la barre des 6000 morts depuis le début de l'épidémie. Il est trop tôt pour dégager une véritable tendance à la baisse, pour confirmer ce ralentissement. Il va falloir observer les résultats des prochains jours. Cette semaine va être crucial, assure le ministre de la Santé. Il le rappelle, il ne faut pas baisser la garde. D'ailleurs, pour faire respecter la quarantaine nationale et limiter la contamination, le gouvernement italien devrait, dans les prochaines heures, durcir un peu plus les mesures.
Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1.
En Russie, les écoles ont fermé hier pour 3 semaines. Un hôpital de 500 lits est construit en toute hâte dans la banlieue de Moscou. Vincent Hervouet, la Russie se prépare à l'épidémie dont elle a jusqu'ici minimisé l'impact.
Alors, le coronavirus porte mal son nom. Il a fait 15 000 morts dans le monde, mais pas un seul russe. Le Kremlin est formel. 48 contaminations sans aucun décès. Évidemment, personne n'y croit. Les spécialistes étrangers remarquent une flambée du nombre de pneumonies. Ils doutent de la qualité des tests pratiqués à grande échelle. Et les babouchkas aussi se méfient et stockent des provisions. Vladimir Poutine prétend l'épidémie sous contrôle. Il traite la menace comme une affaire étrangère. Il a donc bouclé très tôt la frontière avec la Chine. Il met les voyageurs en quarantaine et il frime en envoyant à Milan cette semaine une centaine de médecins qui ont combattu le virus Ebola en Afrique avec des véhicules de désinfection épatant à la télé. La Russie met en scène son aide généreuse à l'Italie que les Européens ont abandonnée.
L'Europe qui met en garde contre la désinformation sur l'épidémie, Vincent, désinformation qui serait favorable à la Russie.
Ah oui, alors Bruxelles dit que des trolls russes utiliseraient la crise pour semer la division. C'est vrai qu'il y a des internautes russes qui s'étonnent qu'il n'y ait pas de masque en France, mais les Français aussi s'en étonnent. Des complotistes imaginent une arme biologique américaine, mais cette rumeur est partie de Pékin. Le vrai machiavélisme de Vladimir Poutine est ailleurs. Il a profité de l'épidémie pour amender la Constitution, mettre 100 000 caméras à Moscou avec la reconnaissance faciale, interdire à l'opposition de manifester et oublier ses promesses de croissance. Le corona n'est pas russe, mais il le mériterait.
Le regard international de Vincent Hervouet dans le journal de 8h d'Europe 1. On vous retrouve demain, Vincent. Et loin des bips et des tut-tut que nous infligent parfois les liaisons techniques en ces temps de télétravail, revenons à la musique a cappella avec ce qui est peut-être la chanson la plus connue dans le monde. Un anniversaire surprise malgré le confinement. C'était hier à Bagneux, près de Paris. Un petit garçon a fêté ses 6 ans. Il découvre un petit mot à la craie sur les dalles de sa résidence et voit tous les voisins sortir, lui chanter joyeux anniversaire, sortir au balcon. Bravo. La distance sanitaire est respectée. Il y avait au moins 15 mètres. Donc Basile, c'est son prénom. Joyeux anniversaire.
Bah, bon anniversaire à lui et puis bravo aux parents. Hein, parce qu'il faut être ingénieux en ce moment quand on a annulé les fêtes d'anniversaire, qu'il faut faire face à la déception des enfants. Ils ont été forts, les parents de Basile. Félicitations. Et merci beaucoup, François Geffrier. C'était le journal de 8. À 8h16, nous retrouvons Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, votre invitée ce matin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, c'est Axel Kahn, médecin généticien, scientifique, humaniste. Ses mots sont précieux en cette période tragiquement historique. Il est aussi président de la Ligue nationale contre le cancer. L'occasion, bien sûr, de penser aux plus fragiles d'entre nous.
Axel Kahn qui répondra ensuite à vos questions au 3921 et sur le hashtag radio. Il est 8h18 sur Europe 1. Il est médecin, généticien, essayiste, humaniste aussi. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Axel Kahn, le président de la Ligue nationale contre le cancer.
Bonjour Axel Kahn.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci d'être avec nous à distance ce matin sur Europe 1. C'est une molécule qui suscite espoir et doute. L'hydroxychloroquine ne sera utilisée que dans un cadre hospitalier, sur décision médicale collégiale et uniquement, Axel Kahn, sur des cas graves. Qu'est-ce que vous pensez de l'encadrement très strict de cette molécule ?
Ce qui est très urgent avec cette molécule, c'est que son effet soit confirmé. Aujourd'hui, il y a une piste, un espoir. Les premiers d'ailleurs qui ont soulevé cette possibilité d'un effet thérapeutique, en agissant sur la cellule, ce médicament n'agit pas sur le virus, mais il modifie la cellule de telle sorte qu'elle puisse être moins infectable par le virus. Ce sont les Chinois, mais avec une très très petite étude, et l'étude du professeur Didier Raoul, qui a été publiée récemment, quand on le regarde en détail, ne permet pas de tirer de conclusion. Et par conséquent, en urgence, une étude européenne multicentrique a été lancée, et on en attend absolument les résultats. Tant que ces résultats ne sont pas obtenus, il s'agit d'une possibilité, d'une piste, je dirais, croisons les doigts pour que cela marche. Nous n'avons pas aujourd'hui la certitude que cela marche. Par ailleurs, le médicament qui est très connu et utilisé chez les personnes atteintes de maladies inflammatoires, le lupus, notamment sous le nom de Plaquenil, aux fortes doses où on l'utilise, connaît une certaine toxicité cardiaque notamment, et on voit bien qu'il faut faire attention quand on l'utilise, en particulier chez des personnes âgées.
On entend bien votre prudence, Axel Kahn, mais dans une telle crise sanitaire inédite, est-ce qu'il faut continuer à privilégier le principe de précaution malgré l'urgence vitale, malgré les morts, jour après jour?
Je crois qu'en l'occurrence, les tests qui sont menés sont des tests en urgence. Il ne s'agit pas de faire une étude académique classique qui va durer des mois. Dans 10 jours, on aura les premiers résultats et les conclusions en seront tirés. Vous savez, en matière de santé, on a un très grand recul. Il faut faire très vite, mais parfois la précipitation peut être pire réellement que une prudence en accélérant toutes les procédures. Donc, à l'heure actuelle, oui, il y a une perspective. Il y a d'autres molécules également qui sont relativement prometteuses. Il faut très, très, très rapidement les tester. J'espère que cela va marcher. Si vous me demandez à ce jour si j'ai la certitude que cela va marcher, non, personne dans le monde n'en a la certitude. Et donc, il faut très, très, très rapidement arriver à tester cet espoir, le vérifier.
Axel Kahn, bien sûr qu'il n'y a pas de certitude, et encore moins en cette période, mais je ne vous le souhaite évidemment pas. Si vous étiez positif au coronavirus, si l'un de vos proches l'était, est-ce que vous ne seriez pas tenté de tester cette molécule ?
Je pense que je me tiendrai à l'approche que je vous ai proposée là, réellement. C'est une molécule que je connais très bien, moi-même, puisque j'ai pris de la nivaquine, qui n'est pas de l'hydroxychloroquine, qui est de la chloroquine, puisque j'ai été médecin-chef d'une préfecture en Afrique, d'ailleurs ce qui me rendait extrêmement familier avec le génie de progression des épidémies, et puis parce que j'ai été médecin, évidemment, j'ai beaucoup utilisé le plaquénil. Et aujourd'hui, je pense que j'espérerai très très rapidement avoir le résultat des différentes études, et je vous ai dit, il y a d'autres molécules, mais je garderai cette position en ce qui me concerne. Concerne moi et mes proches.
Le pic de l'épidémie, Axel Kahn, est à venir, avec nos soignants en première ligne, 5 décès parmi eux. Est-ce qu'il faut craindre des contaminations en chaîne de nos médecins, de nos soignants ?
Ah, il est certain que la maladie, et on le sait depuis le début, est terriblement contagieuse. Pas autant tout de même qu'une maladie comme la varicelle, mais beaucoup plus contagieuse que la grippe. Elle est 2 à 3 fois plus contagieuse que la grippe. Une personne qui est contaminée en contamine en moyenne, on disait au départ 1,5 à 2, ça serait plutôt 2 à 3. Et donc, malheureusement, quoi que l'on fasse, il y a en effet des soignants, des infirmières, des réanimateurs, des médecins de ville qui sont contaminés, et il y en a malheureusement qui iront jusqu'au bout d'une évolution fatale de la contamination. Malheureusement, oui, il y a de ce point de vue-là une situation qu'on connaît bien dans les épidémies. Les épidémies graves comme cela, on en a connu d'autres, n'ont jamais épargné, bien évidemment, le corps soignant et le corps médical. Ils sont en première ligne.
Bien sûr, ils sont en première ligne, d'où l'urgence de leur protection. Axel Kahn, vous êtes médecin, vous êtes scientifique. Tout le monde en ce moment donne son avis sur le confinement, mais vous, votre avis compte. Hier, le Premier ministre en a précisé et durci les contours. Et pour vous, Axel Kahn, vers quel confinement faut-il aller ?
Lorsque une épidémie se répand comme celle-là, elle se répand en une population mondiale naïve, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'épidémie de même ordre, d'une part, et d'autre part, il n'y a pas de vaccination. Donc c'est une population naïve, sans défense naturelle. On en connaît parfaitement la cinétique. La seule chose à faire, c'est le confinement. C'est depuis d'ailleurs des millénaires, lorsqu'il y a des épidémies, lorsque l'on veut bloquer l'épidémie, c'est le confinement. Et pour quelle raison ? C'est que, surtout un virus comme cela, ce virus, il n'a pas de bottes, il n'a pas de souliers. Il n'est que transporté par les humains qui, eux, ont des souliers. Et donc, si on veut freiner la contamination entre les personnes, c'est-à-dire la dissémination du virus, il n'y a pas d'autre possibilité que le confinement. Alors, certains disent, oui, mais il peut y avoir le dépistage systématique. Oui, c'est vrai, mais le dépistage systématique, c'est un confinement individualisé. Le problème, c'est que, on peut le dire, mais il y a 65 millions de Français, la France n'a pas le nombre de tests, les réactifs, permettant de tester toute la population. D'ailleurs, la Chine non plus. La Chine n'avait pas les moyens de tester 1 milliard 400 millions de population. La Chine est parvenue à stopper l'épidémie par le confinement.
D'autres l'ont fait, Axel Kahn, avec des doctrines justement de dépistage massif qui ont donné et fait leurs preuves.
Oui, parce que c'est du confinement, c'est ce que je vous ai dit, c'est du confinement individualisé. La Corée, de ce point de vue-là, était en très bonne situation parce que elle a été atteinte en particulier et assez lourdement par la grippe aviaire, vous savez, le virus H1N1. Et donc, elle avait développé sur le territoire toute une série de systèmes. Alors, c'est un diagnostic compliqué par amplification du matériel génétique. On appelle ça la PCR. Ils l'avaient développé et ils l'ont utilisé très très largement et ils l'ont utilisé dès le début. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu à tester toute la population. Au début, ils ont pu dépister et isoler. C'est du confinement. Le dépistage systématique, c'est du confinement. Mais quand on peut effectivement tester tout le monde, on confine tous ceux qui sont positifs. Simplement, que voulez-vous que je vous dise, la France n'avait pas les moyens de le faire parce que le nombre de possibilités, au départ, c'était 2000 tests par jour. Comment voulez-vous tester tout le monde alors qu'il n'y avait pas de capacité dans ce pays et les réactifs, ils viennent de l'étranger en plus. Et donc, il n'y avait effectivement pas la possibilité
de le faire. Axel Kahn, on pense bien sûr en cette période aux plus fragiles d'entre nous, à nos aînés, d'abord évidemment, aux malades aussi. Vous présidez la Ligue nationale contre le cancer. Une personne qui souffre d'un cancer est encore plus vulnérable au coronavirus ?
Oui, il n'y a strictement aucun doute. Les personnes atteintes de cancer font partie des populations fragiles. Lorsqu'elles sont en traitement, beaucoup des traitements entraînent un affaiblissement des défenses immunitaires, mais également lorsqu'elles ont été traitées dans les mois qui ont précédé. D'une part, elles contractent un peu plus fréquemment que la moyenne des personnes la maladie, et d'autre part, cette maladie est plus fréquemment sévère chez elles. Et par conséquent, nous sommes totalement, complètement mobilisés pour essayer de garder deux fers au feu. D'une part, continuer au mieux possible à guérir la maladie cancéreuse. Le cancer est une maladie grave. Et deuxièmement, minimiser autant que faire se peut le risque de surinfection. C'est une situation délicate. Et vous êtes inquiète, Sonia Mabrouk, et moi aussi, je suis inquiet, que voulez-vous que je vous dise, pour mes enfants qui sont médecins, qui sont véritablement au front, en première ligne, pour moi-même aussi. Mais les personnes qui sont atteintes de cancer, vous voyez bien que leur inquiétude est considérablement plus importante, parce que ils ont l'inquiétude de l'épidémie, l'inquiétude de la maladie et l'inquiétude de ce que on soigne moins bien leur maladie cancéreuse du fait de l'épidémie. Et donc la solidarité envers ces personnes doit être totale.
Il faut que les patients souffrant d'un cancer, c'est très important, ça c'est le message aussi de la Ligue nationale contre le cancer, continuent leur traitement, c'est ce que vous martelez depuis plusieurs jours et plusieurs semaines. Je voudrais qu'on termine sur une note, Axel Kahn, si je puis dire, si c'est possible, positive, dans une période tellement anxiogène, quel message est-ce qu'on peut faire passer sur l'avenir, sur la science, sur nos croyances même ?
Alors écoutez, tout d'abord une certitude, c'est que, vous savez, on est là au printemps, le printemps est venu, il y aura bientôt l'été. Alors le printemps, il est un peu obscurci, c'est clair. C'est un printemps confiné, c'est pas un printemps dans les bois comme on les aime. Mais à la fin du printemps, au début de l'été, on sortira. Il y aura du soleil, il fera beau. L'humanité n'est pas menacée par l'actuelle épidémie. Elle est redoutable. On n'a jamais connu une épidémie aussi grave depuis la grippe espagnole de l'immédiate après-guerre. Et il n'empêche que ça n'est pas une guerre qui dure des années. Ça va durer 2 mois, 3 mois. Et donc, il faut se préparer à ce que nous soyons dans la joie, l'allégresse des retrouvailles, de l'épreuve surmontée. Allez, on regarde vers l'avenir.
Allez, on regarde vers l'avenir. Merci Axel Kahn. Et cette guerre aura une fin, on l'espère tous. Beaucoup d'auditeurs souhaitent aussi vous interpeller, médecins, généticiens, scientifiques et puis humanistes aussi, on le précise.
Bien sûr. Merci Sonia Mabrouk et merci Axel Kahn. Merci de jouer le jeu du question-réponse, de l'écoute, des témoignages aussi de nos auditeurs sur le 3921 et le hashtag Radio Ouverte. Ils sont nombreux depuis ce matin. On se retrouve dans quelques toutes.
La matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard.
Il est 8h31, vous êtes sur Europe 1, la radio ouverte, hashtag radio ouverte et le 3921 pour vos questions, vos témoignages. J'attire votre attention sur ce que nous vous proposons entre 9h et 9h30, après le journal tout à l'heure. Résidents, soignants, vous avez entendu évidemment cette annonce du décès de 20 résidents d'un EHPAD des Vosges. Dans le contexte évidemment, comment ne pas s'inquiéter ? Quelle problématique de santé dans les EHPAD ? Quelle réponse aussi, parce qu'il n'y a pas que la santé, quelle réponse face à l'isolement ? Comment, ce matin, tiens, je vous pose la question, comment vont vos proches ? Nous serons avec Romain Gisolme de l'ADPA, c'est l'association des directeurs au service des personnes âgées. Il va répondre à toutes vos questions. Écoutez lui aussi vos témoignages sur nos aînés face au virus. C'est la radio ouverte, c'est sur Europe 1. Et vous composez pour vous inscrire maintenant le 3921. Vous écrivez aussi vos questions sur le hashtag radio ouverte. Axel Kahn, merci d'être resté avec nous. Rebonjour.
Rebonjour.
Beaucoup de questions de nos auditeurs, alors certaines sont techniques, d'autres plus philosophiques, éthiques, mais tiens, puisqu'on parlait des EHPAD, ce confinement en ce moment, se retrouver finalement isolé de ceux qu'on a le plus envie de protéger, nos aînés peut-être, c'est une situation psychologique complexe.
Oui, en effet, elle est très difficile. Mais vous savez, il y a toujours l'établissement d'un ordre de priorité. Et la priorité, c'est que ces personnes qui sont en EHPAD et que nous aimons, elles ne meurent pas. Elles ne meurent pas. Depuis le début, nous savons qu'elles sont terriblement menacées et malheureusement, ce qui se passe le confirme. Et donc, il faut que l'on reste en contact avec elles par téléphone, par Skype, par tous les moyens. Mais surtout, surtout qu'on les protège, qu'on reste à l'extérieur de l'EHPAD. Et donc, si nous aimons véritablement ces personnes, la première priorité, c'est de tout faire pour les maintenir en vie.
Et les protéger, c'est rester à la maison.
Et les protéger, voilà.
On le comprend bien, Axel Kahn. Alors, avant d'accueillir accueillir Gilles au 39-21. Je sais, et beaucoup de Français le savent parce qu'ils vous ont lu dans deux ouvrages, vous aimez marcher, vous avez marché à travers le pays, vous marchez à chaque fois que vous le pouvez, y compris dans Paris, je vous ai déjà croisé, Axel Kahn. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas frustré?
Ben, je vais vous dire, je suis confiné, hein, il faut pas prétendre que je ne le suis pas. Mais je vais me confiner au siège national de la Ligue contre le cancer, tout simplement, je vous l'ai dit, parce que il y a 4 millions de personnes qui ont été atteintes ou sont en soins pour cancer. Et donc, il y a 1000 choses à faire. Les gens appellent, les gens sont affolés. Et donc, il est extrêmement important. Je ne peux pas tout faire de domicile. Et donc, le matin, je fais 3 kilomètres à pied tout seul, voilà, très tôt. Je vais m'enfermer à la Ligue nationale contre le cancer et je reviens le soir. Donc, je fais tout de même 7 kilomètres à pied tous les jours.
Axel Kahn, toujours à pied. On va accueillir Gilles tout de suite. Il est en Charente-Maritime. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour. Bonjour.
Votre question pour le professeur Axel Kahn.
Je voulais faire quand même une transition, c'est que je ne suis pas trop d'accord sur l'histoire des coûts de la santé. C'est qu'aujourd'hui, on parle en curatif. Que va nous coûter le coût curatif de tous ces décisions palliatives improvisées à la dernière minute par rapport au coût préventif? Bon, ça, ceci étant dit.
Mais attendez, Gilles, marquons une pause. On est dans un échange, hein, y a pas de souci. Je sais que on est toujours pris par le temps à la radio, mais on le prend le temps. Y a pas de souci. Axel Kahn, vous entendez la réaction de Gilles?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais dans une affaire comme une épidémie, c'est vraiment le cas où le préventif ne marche pas. Je veux dire, on va dire, voilà, il faut fermer les frontières, il faut faire précaution. Il faut se faire aucune illusion. Le virus, il ira partout. Quelques précautions on prenne, le virus, il ira partout. La seule précaution, c'est le confinement. Cela étant dit, on ne va pas confiner les gens avant que l'épidémie soit là. Donc, le monsieur, il a raison. Sauf Gilles. En ce qui concerne l'épidémie du Covid-19.
Alors précisément, votre question, Gilles, concernait les mesures qui sont prises face aux épidémies.
Oui, le paradoxe, cher monsieur Axel Kahn, votre paradoxe, c'est que vous me parlez bien du confinement. Confinement, c'est processus, c'est un processus. On est dans le processus, sauf que ça fait 3 mois qu'on nous parle de ce virus. Or, aujourd'hui, on ne parle que de curatif à la télévision, dans les médias. Les grands enseignants, tous interviennent. On les félicite quand même. Parce qu'au quotidien, c'est quand même des morts, on les a oubliés. On parle tous que du curatif, que du palliatif. Or, moi, je pense qu'à aujourd'hui, vous nous donnez une mauvaise impression, tous, les pouvoirs publics, les médias, les experts même qui intervenaient, il y a des paradoxes dans ce que vous dites, mais vous êtes tous des spécialistes. Et le paradoxe, il est là. Pourquoi?
C'est que alors, moi, je ne parle pas. Pardon, donnez, monsieur.
Juste pour finir, et je pose la question, mais vous comprenez bien le contexte dans lequel vous êtes, vous et nous aussi, particuliers. On vous entend au quotidien. En fait, vous nous dites tous que vous avez des solutions, mais ça fait 3 mois qu'on est en train d'entendre des choses avec leur contraire sur les processus. Je reviens là-dessus. Et j'ai fini, et je pose la question. Il existe dans le nucléaire, aéronautique, agroalimentaire, HACCP, aéronautique et nucléaire, et automobile, l'AMDEC. Analyse des modes de défaillance, de leurs effets, de leur criticité, et en anglais, failure material effect analysis. Pourquoi aujourd'hui, on nous parle d'un processus de confinement qui se fait à la dernière minute, qu'on est en train d'adapter au document près, à la virgule près, au mot près, le ministre, le premier ministre, le ministre de la Santé, qui est viré un mois à toi, et j'ai fini ma question. Comment se fait-il que des corps enseignants de la santé, aujourd'hui, quelqu'un pourrait me dire qu'il existe une méthodologie pragmatique, dans lequel on est capable de chiffrer le coût palliatif, le coût curatif.
Mais c'est essentiel votre question.
Le coût prédictif. Et j'en ai fini. Est-ce que ça existe?
Alors c'est essentiel comme question. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs tiroirs. Axel Kahn, d'abord sur la méthodologie, est-ce qu'on est dans l'improvisation?
On est toujours dans l'improvisation dans les épidémies. Toujours. Tout simplement parce que ce que l'on sait, c'est qu'une épidémie peut survenir. Ce qu'on ne sait absolument pas, c'est quand elle surviendra, avec quel agent et quels seront les paramètres de l'extension épidémique. Ça, on ne le sait jamais. On est obligé de s'adapter. La vie a ceci d'extraordinaire et qu'elle intègre la dimension du hasard, c'est-à-dire du vrai hasard. Le hasard, d'ailleurs, dont les physiciens parlent. J'ai pas le temps d'en parler, c'est assez théorique. Et donc, en effet, il faut s'adapter. Pour ce qui est de l'épisode actuel, le monsieur est sévère, car moi j'ai répondu à des questions sur le possiblement curatif, j'ai surtout parlé du préventif. Et ce que j'ai dit, c'est que bien évidemment, lorsque vous avez une maladie qui, on a la chance qu'elle ne se transmet pas par les rats, elle se transmet uniquement de personne à personne, ni par les moustiques, que de personne à personne. Eh bien, la seule mesure préventive, c'est le confinement, soit le confinement individuel si on a les moyens de tester tout le monde, ou alors quand on n'a pas les moyens de tester tout le monde, le confinement généralisé, ce que la Chine a fait, et elle a stoppé cette épidémie qui aurait pu frapper évidemment 1 milliard de personnes.
Mais dans la remarque et la question de Gilles, Axel Kahn, il y avait aussi une remise en question de la parole scientifique. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'experts dire et se dédire sur les plateaux de télévision.
Oui, c'est vrai, mais que voulez-vous ? Ce sont des humains qui font de la science. La science avec un grand S qui serait totalement déconnecté des incertitudes de l'humanité ou des tendances, de l'incertitude des résultats scientifiques, ça n'existe pas. Il se trouve que pour cette épidémie, j'étais, quant à moi, extrêmement conscient de ce qui allait se passer parce que j'étais très préparé. J'ai vécu 2 ans en Afrique et j'ai vécu plusieurs épidémies et j'ai fondé et dirigé un très grand journal biomédical international et j'ai eu à couvrir de nombreuses épidémies. Donc dès que l'épidémie a débuté, je savais très bien ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, ça m'a permis de mettre la Ligue nationale contre le cancer en ordre de marche, car je savais qu'on allait vers le confinement généralisé dès la fin février. Mais tout le monde n'avait pas cette susceptibilité, cette notion, cette sensibilité. C'est vrai, on a entendu beaucoup de choses. Et c'est très difficile pour les politiques de prendre une décision, surtout quand leurs experts scientifiques ne sont pas tous d'accord. Et dans la réalité, même dans le domaine de la science, en effet, il y a des diversités de sensibilité et des niveaux de connaissances variables et variés. C'est vrai.
Merci Gilles pour votre question depuis la Charente-Maritime. Au 39-21, nous sommes en Seine-et-Marne avec Alain. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Votre question pour Axel Kahn.
Oui, voilà, oui, je suis un peu choqué de la situation actuelle. On me reproche, enfin, on reproche aux Français d'être, de ne pas porter de masque, de ne pas porter de gants, enfin, etc., etc., bien que je suis entièrement d'accord avec cette décision. Par contre, je vois Emmanuel Macron à la télé qui ne porte aucune protection. Alors, je voudrais savoir, il est immunisé contre le virus? Merci.
Alors écoutez, c'est pas moi qui vais vous répondre à cela. J'imagine que il est en relative confinement. Moi non plus, je ne porte pas de masque. Et si je ne porte pas de masque, en l'occurrence, c'est parce que je ne suis pas malade. Les masques, l'utilité maximale des masques ordinaires, les masques chirurgicaux, c'est de ne pas contaminer les autres. Donc voilà. Et d'autre part, si on est en contact direct avec personne, le masque n'est pas indispensable. Si vous marchez dans la rue, à 15 mètres du passant le plus proche, le masque n'est pas indispensable, ça c'est tout à fait réel. En revanche, évidemment, pour les personnes soignantes qui s'approchent des malades, ils doivent à la fois ne pas les contaminer et ne pas se contaminer. Alors il faut des masques d'un niveau de sécurité supérieur.
Simplement, par rapport à la question d'Alain, ce matin, dans les journaux d'Europe 1, on a pu entendre ces députés ou sénateurs qui sont médecins de formation et de métier et qui ont réenfilé la blouse blanche pour venir à l'aide à l'hôpital. Pour vous, c'est leur place ?
Oui, je crois que vous savez, il y a, pas pour le monde entier, pas pour les habitants, tous les habitants quels qu'ils soient, mais il y a pour le corps médical une mobilisation générale. Lorsque le président a dit on est en guerre, oui c'est vrai qu'on est en guerre, mais le corps médical, le corps soignant, les infirmières, tous les soignants sont véritablement en guerre et le reste de la population va parvenir à minimiser les risques et surtout minimiser ce qui va survenir, c'est-à-dire les conséquences à cause de la mobilisation qui a quelque chose d'héroïque du corps médical. Et vous savez pourquoi le corps médical est mobilisé ? Tout simplement parce que c'est son devoir. Ces femmes et ces hommes, ils se posent pas la question. Ils font leur devoir. Et leur devoir, c'est notamment de prendre aussi peu de risques possible, mais de prendre des risques pour nous protéger. Pensez véritablement à toutes ces personnes qui font leur devoir pour vous protéger.
Marie est en ligne. Je remercie encore une fois Alain. Marie est en ligne au 39-21. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Une toute autre question pour Axel Kahn ce matin.
Oui, bonjour docteur. Je me demandais quel discours adopter avec les enfants parce que la situation est assez anxiogène et en fait, ils ne savent pas quand ça va s'arrêter. Leurs habitudes ont changé, les enfants sont des petits êtres d'habitude. Comment leur parler? Comment leur expliquer tout ça?
Alors, il y a deux aspects. Je crois il y a le discours, la conversation, l'information qu'on donne aux enfants. Et il faut leur dire, comme ils sont prêts à l'écouter, à l'entendre, la vérité. C'est-à-dire, il faut leur dire, ben voilà, il y a un microbe là qui circule, qui est important. Toi, mon enfant, tu risques pas d'être très très malade, mais tu peux transmettre le microbe et tu peux transmettre le microbe même à des gens comme maman, papa, des gens que tu aimes, ou bien le grand-père, la grand-mère. Donc, il faut que tu fasses très très attention. Mais tu sais, mon enfant, c'est difficile. C'est un peu comme les grandes vacances. Ça va durer comme les grandes vacances. Mais là, les grandes vacances à l'envers, les grandes vacances où effectivement on peut pas s'amuser comme d'habitude. Et puis après, je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir l'été. Il va y avoir l'été et on va en sortir. Évidemment qu'on va en sortir. Et qu'est-ce que ce sera chouette quand on pourra en sortir tous les deux, avec les chants d'oiseaux et toi, tous les jeux avec tes petits copains. Et ça, ça va venir. Et en attendant, eh ben, il faut que les gens que tu aimes, tu penses à eux et que tu évites, en étant imprudent, de les mettre en danger. Voilà, je te le dis, mon enfant, et je t'aime naturellement, mon enfant.
La vérité, nous dit Axel Kahn, la vérité pour les enfants. Merci beaucoup, Marie, de votre question. Et mille merci à vous, professeur Axel Kahn, président, c'est votre titre actuel, mais le CV est long, président de la Ligue nationale contre le cancer, et c'est essentiel en ce moment, beaucoup de patients qui se posent des questions. Médecin, chercheur en génétique, ancien président d'université, essayiste, Axel Kahn, merci beaucoup de ces quelques minutes où vous avez répondu à nos auditeurs après l'interview de Sonia Mabrouk. Il est 8h44 sur Europe 1. Bon réveil à toutes et à tous. Europe 1. Et votre matinale se poursuit jusqu'à 9h30 sur la radio ouverte. Dans un instant, vous l'attendez, il est là. Nicolas Canteloup et sa revue de presque. Il est 8h45, laissez-moi vous dire un mot simplement de ce qui va se passer entre 9h10 et 9h30. Toutes vos questions relatives à nos aînés. On a appris hier la mort de 20 patients, 20 résidents dans un EHPAD des Vosges. Et on a rappelé Romain Gisolme, qui était notre invité déjà hier, beaucoup plus tôt, parce qu'il y a des questions qui se posent. Quelles problématiques de santé? Quelles réponses face à l'isolement? Comment vont vos proches ce matin? Je vous pose la question résidents, soignants, famille, la question des EHPAD, des aînés, au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Mais pour l'heure, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, bah, ne bougez pas, Mathieu, on vous retrouve pour vos commentaires sur l'actualité.
Oui, il y a des choses très importantes qui vont se passer à 9h10, mais il y en a aussi à 9h-10 qui sont pas mal. Alors, restez sur Europe 1. Bonjour, c'est Mathieu. Mathieu, toujours en direct depuis mon garage. Voilà, je
toujours.
Suis envoyé spécial, enfin je suis plutôt renvoyé spécial chez moi. Voilà, l'avantage, l'avantage de la situation, c'est que si je suis viré un jour, je suis déjà sur place chez moi. Voilà.
Ah bah oui. C'est vrai, c'est pratique.
On aimerait remercier au passage tous nos correspondants, tous nos animateurs qui sont depuis chez eux, en particulier Vincent Hervouette. Vincent Hervouette qui est sorti de sa cave, qui a fait l'effort parce que la liaison était mauvaise. Il a pris tous les risques ce matin pour avoir une meilleure liaison avec nous. Il est monté carrément sur le toit de son pavillon, vous l'avez entendu, juste à côté de l'antenne. Mais du coup, bon, il n'a pas fait exprès, ça grésillait fort. Ça grésillait fort. Donc on le dit à Vincent, fais attention Vincent, en redescendant. Hein, ne glisse pas, surtout qu'il est équipé de smell crêpes, ça devrait aller. Mais oui, de smell crêpes parce que c'est Vincent Hervouette et il est breton. Donc smell crêpes, voilà. Voilà l'info du jour, c'est pas les smell crêpes de Vincent Hervouette.
On dirait moi quand j'essaie de faire de vraies transitions.
Voilà, exactement. L'info du jour, c'est Édouard Philippe. Qui, vous l'avez vu, vous étiez nombreux à le regarder, qui a annoncé le durcissement des règles de confinement. Les règles sont désormais claires. Restez chez vous. Voilà, enfin, sauf pour courir un peu, faire un peu d'exercice physique, mais pas loin de chez vous. Voilà, mais restez chez vous. Mais pas à plus d'un kilomètre de chez vous. Mais vous restez chez vous, voilà. Et puis les marchés. La consigne est claire sur les marchés qui sont désormais fermés. Les marchés sont interdits dans les communes. Voilà. Enfin, sauf si, bien sûr, il y a une dérogation du préfet à la demande du maire. Mais sinon, c'est interdit. Mais si le préfet l'autorise, c'est autorisé. Mais sinon, c'est interdit. Bref. Je sais pas s'il est pareil dans l'éducation avec ses enfants, Edouard Philippe, mais si c'est le cas au niveau des consignes, ça va être un sacré bordel à la maison chez les Philippe.
Ah bah vraiment, oui. Hein, c'était pas clair. Hein.
Je rebondis une question là tout de suite de nos auditeurs sur la fermeture des marchés. Si, c'est une bonne question d'ailleurs, vous pouvez répondre chers auditeurs au 39-21 si vous avez la réponse. Si elle ne peut plus vendre de poissons, que va faire Nadine Morano? C'est une bonne question. Répondez au 39-21.
Mais enfin, il ne viendra plus jamais chez nous, arrêtez.
Puis l'autre info, ce sont c'est Vincent Hervouet qui nous fait un non, il a attrapé l'antenne. C'est l'autre info, ce sont les tests effectués à Marseille sur des centaines de patients. On l'a vu, des tests, on l'a entendu ce matin, effectués par prélèvement dans la narine. Ah merde, ça veut dire que oui, si Benoît Magimel fait le test des narines, il ira peut-être pas à l'hôpital, mais sûrement plutôt en garde à vue. À vous, Julie. Ni Nadine, ni Benoît Magimel ne vont écouter Europe 1 dans l'avenir, j'en ai peur.
Allez, tout de suite, un petit point météo avec Laurent Cabrol.
Là, je suis vraiment, je veux dire les mots, je suis désolé. J'ai une très très mauvaise nouvelle. J'aime pas annoncer des choses comme ça sur l'antenne, mais effectivement, il va faire beau. Un grand soleil, ah oui, un putain de soleil là. Oui. Je suis navré, je sais que la période est suffisamment déprimante comme ça, mais voilà, bon, pas un nuage, hein, chers auditeurs, pas une goutte de pluie, pas de vent, rien du tout. Non, vraiment, un temps magnifique. Hein, vraiment, toutes mes excuses. En plus, j'ai eu Météo France au téléphone. C'est, je sais pas si je dois vous le dire, mais c'est le plus beau mois de mars depuis le 13e siècle. Voilà. J'ai eu en ligne Philippe Auguste, Louis VIII, Louis IX, Philippe III et Philippe IV, Philippe le Bel. Oui, je suis devant Wikipédia. Je triche, je suis chez moi. Donc, tous les rois du XIIIe siècle m'ont confirmé. Il n'a jamais fait aussi beau.
C'est très bon, ça.
Donc, oui, mais tout est très bon, hein, mon cher Mathieu. Il n'y a pas que ça qui est très bon. Non. Donc, vraiment, je suis désolé. Et voilà. Je viens de recevoir les chiffres. L'air n'a jamais été aussi pur, hein. Zéro pollution.
Mais c'est bon, ça va.
Ah oui, non, on pourrait respirer au soleil des grandes bouffées d'air frais. Bon, et puis du coup, bah non, on peut pas. Hein, voilà. Voilà.
Pas mieux. La météo de la fenêtre.
Pas mieux, nous non plus. Merci Laurent.
Bon, alors, moi j'ai un petit secret. Hein. Moi je suis pas confiné. Moi pour pas faire arrêter par la police, je vais faire un tour d'avion. Hein. Je vous laisse.
Ah, la belle vie, Laurent. Allez, on va prendre des nouvelles de nos invités habituels. On va faire un petit tour du côté d'un de nos seniors. Il vit tout près de Paris, hein, Montretout. C'est Jean-Marie Le Pen. Allô, Jean-Marie Le Pen ?
Nous voilà ! Jeannie, veux-tu bien baisser le son de l'électrophone, je te prie ? Ah, elle n'entend rien, la gourde. Elle a la peau. Elle a la peau des joues dans les oreilles depuis son dernier lifting.
Oh non !
Oui, c'est pas un lifting, c'est un retendage. Jeannie, la musique, bordel ! Ah, c'est pas vrai !
Oui, allô, à qui ai-je l'honneur ?
C'est Mathieu Béliard et Julie à Europe 1.
Ah, à la bonne heure. J'écoute, je dois le concéder tous les matins. Ah. J'ai d'ailleurs appris avec bonheur que Monsieur Blédard, Mathieu Blédard, conservait par-devers lui et dans son garage un exemplaire du magazine Playboy, n'est-ce pas ?
Ah tiens, tiens.
Et dans lequel mon ex-épouse Pirette s'était légèrement dévêtue.
Oui, oui, on
et
s'est
il paraît
bien.
Qu'il est caché sous une pile de magazines Rustica, n'est-ce pas ?
De main, là.
Tout le côté garage. Moderne de Monsieur Blédard. Et c'est un alibi, n'est-ce pas ?
C'est oui, bien mon, caché. Hein.
Oui, mon épouse Pirette avait anticipé d'ailleurs mon lieu de résidence à travers cette tenue. Mon lieu de résidence qui, vous le savez, s'appelle Montretout.
Ah, Montretout.
Oui, c'est drôle, oui, ça vaut bien les crêpes de Monsieur Hervouet. Écoutez, en tout cas, ce n'est pas l'objet de mon appel, n'est-ce pas ?
Non, nous, on voulait vous parler en tant que senior. Hein. Vous êtes un senior plus, Monsieur Le Pen.
Oui, n'est-ce pas ? Je vous emmerde, effectivement, cher Louis Leclerc.
Oh, ne le prenez pas mal, hein. Vous avez 91 ans, c'est comme ça. Hein. Comment est-ce que vous vivez le confinement, dites-nous ?
Écoutez, ma foi, fort bien, car je salue et la prudence préventive de ma fille Marine qui, pour protéger son papa préféré, ne vient plus me voir déjà depuis 8 années, n'est-ce pas ?
Ouh là 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 là, mais qui vous apporte vos repas, Monsieur Le Pen ?
Eh bien, qui m'apporte les repas, c'est Uber Eats, n'est-ce pas, et Deliveroo.
Oh, non.
Oui, car j'ai beau être un ancien, et je suis connecté. Et figurez-vous, figurez-vous qu'hier midi, c'est un jeune Hamid, un jeune cycliste algérois, n'est-ce pas, et qui m'a livré ma pitance. Mm-hmm, et ouais. Hier soir, de mémoire, c'est Abdoulaye. et un jeune sprinter de Dakar et qui nous a livré notre souper, n'est-ce pas?
Oui.
Et puis ce matin, j'ai eu le plaisir de voir débouler un fringant ivoirien, Mamadou, qui m'a livré ma baguette. Oui. Si on m'avait dit un jour que je serais sauvé de la famine par des Africains, je ne l'aurais jamais cru. Saleté de virus.
Bon courage, monsieur Le Pen. Allez, à bientôt. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a évoqué hier un possible retour à l'école le 4 mai prochain. Jean-Michel Blanquer, bonjour.
Oui, bonjour. Effectivement, j'ai annoncé un retour possible pour le 4 mai.
Mais attendez, c'est quoi cette voix-là? Vous portez un masque?
Non, mais comme je ne sais pas trop imiter Blanquer, ça m'arrange.
Ah bah ça, c'est Nicolas Cantelou qui parle, là. C'est la meilleure. Le masque qui va aider à faire des imitations qu'on ne sait pas faire. Bon, bah écoutez.
Oui, c'est très pratique, le masque.
Cette date du 4 mai, c'est un début d'espoir.
Oui et non. Ça veut dire que l'on commence à penser à la fin de l'épidémie. Ça, c'est plutôt bien. Mais ça veut dire aussi que vous allez tous vous taper vos mômes chez vous encore pendant un mois et demi. C'est la réalité. Du coup, je conseille à la ministre de la Santé, en plus des masques sanitaires, de commander 2-3 milliards de boîtes d'antidépresseurs.
Mais finalement, qu'est-ce que cette crise...
Juste des boules de caisse.
Mais elle est bien, la voix de Blanquer, enlever ce masque.
Mais oui, c'est vrai, c'est marrant.
Oui, c'est vachement bien. Alors, finalement, qu'est-ce que cette crise sanitaire aura changé pour l'école?
Alors, écoutez, maintenant, c'est cours de chinois obligatoire.
Comme d'accord.
Ça, la prochaine crise, les enfants pourront commander eux-mêmes leurs masques en Chine. En tout cas, je voudrais dire et redire merci.
Au personnel soignant, j'imagine.
Non, avant tout aux parents qui ont offert aux enseignants un mois de calvaire en moins. Maintenant, ils comprennent ce que c'est que de faire l'école à un gosse. Alors, multiplié par 23, vous avez la souffrance d'un prof.
Eh bien, merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur Blanquer. Le professeur Raoult a organisé un dépistage géant à Marseille. On a vu les patients qui faisaient la queue hier devant le pôle d'expertise sur les maladies infectieuses de la ville. Bonjour, Jean-Claude Gaudin.
Ah oui, bonjour, madame Julie, monsieur Cabrol, toute l'équipe est sauvage. Monsieur Béliard, bonsoir à tous. Écoutez, hier, bonjour plus exactement.
Bonjour,
hier, on a vu que ça à la télé. Ça n'était plus, vous avez vu, c'est que ce n'était plus les Marseillais à Vegas ou les Marseillais à Cancun, non, c'était les Marseillais au dépistage.
Tous ces Marseillais dehors, en plein confinement, c'était impressionnant. Hein, mais
ah oui, impressionnant. Et puis vous avez vu la discipline, comme ils étaient sages, en randonnant, à respecter les distances de sécurité, la distanciation sociale, comme on l'appelle, de 1 mètre. Ils étaient tellement disciplinés que je me suis demandé s'ils étaient vraiment Marseillais de souche.
Alors, le professeur Didier Raoult est une sommité en infectiologie. Il vit depuis des années à Marseille. Hein. Il est persuadé que le remède contre le coronavirus, c'est la chloroquine. Pourtant, les autorités médicales ne lui font pas totalement confiance. Vous savez pourquoi, vous?
Oui, mais ça, madame, je lis, c'est de la prétention parisienne. C'est typique. Je le dis, vous n'avez pas le monopole des laboratoires et de la science, messieurs de la capitale, hein, messieurs et mesdames. C'est pas parce que monsieur Raoult ressemble à Patrick Sébastien dans le Grand Bluff, qui n'est pas sérieux.
Ah oui, c'est pas faux, ça. Mais vous avez de grands scientifiques à Marseille, monsieur Gaudin?
Mais bien sûr, depuis les années 50, madame Leclerc, depuis la French Connection, ou alors, certes, nous ne sommes pas distribués en pharmacie, nos produits, mais ça fait un demi-siècle que les labos marseillais mettent au point des substances stupéfiantes qui ont une efficacité redoutable. Si Lance Armstrong remporte le Tour de France en grimpant le Ventoux à 135 km/h en 2000, en roue arrière, c'est beaucoup, en partie grâce au laboratoire des frères Frappelli. Alors, je le dis, messieurs, mesdames de la capitale, un peu de modestie.
Allez, on va vous laisser. Merci, monsieur Gaudin. Un essai géant de la chloroquine a donc débuté hier. On est avec le docteur qui en a parlé le premier à Marseille, le fameux professeur Didier Raoult. Bonjour.
Ouais, salut, c'est génial. Salut, Mathieu. Salut, Mathieu. Ouais,
il
c'est le docteur Raoult. Ouais, tiens, tire mon doigt, tu vas voir, ça va être que du bonheur.
Vous êtes sûr que vous êtes le professeur Didier Raoult?
Non, bien sûr. Ouais, toute la journée, j'ai fait des essais sur la chloroquine et ça m'a donné une idée de chanson.
Allez, 3, 4. Elle est coquine la chloroquine. Elle me rappelle une rouquine. Allez, Mathieu, on met son slip sur la tête et on chante. La 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 la
chloroquine.
Elle est coquine.
C'est bon, merci Patrick.
Ça va marcher, il n'y a aucun doute là-dessus. Bravo, bravo Julie, Nicolas. Cabrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Vous retrouvez la revue de presse bien sûr sur europe1.fr. Merci Nicolas pour ces quelques minutes de sourire dans un contexte si particulier. Quelques questions qui se posent sur la gestion de la crise dans les EHPAD. Les questions que vous vous posez pour Romain Gisolme, directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Il sera dans ce studio après le journal, dans ce studio. J'ai encore quelques phrases réflexes. Il sera en ligne avec nous en télétravail lui aussi et avec vous au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte à suivre le journal d'Hélène Zelani. Bon réveil.